26 avril au 8 septembre, venez découvrir l'exposition « Olympisme, une histoire du monde ». Une traversée historique et sportive, des combats et exploits qui ont façonné les Jeux et notre époque. Revivez 130 ans d'Olympiades au rythme de portraits d'athlètes, d'images mémorables et d'objets exceptionnels. « Olympisme » au Palais de la Porte Dorée à Paris, en partenariat avec Radio France.
23h et vous écoutez France Inter ? Et c'est le journal Toute l'information avec Luc Chemla. Bonsoir Luc.
Bonsoir, bonsoir à tous. Il est accusé par deux femmes d'agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. L'acteur Gérard Depardieu sera jugé en octobre devant le tribunal correctionnel de Paris. Explication dès le début de ce journal. Que va faire le Hamas ? Eh bien, c'est toute la question ce soir, alors qu'une nouvelle proposition de cessez-le-feu lui a été présentée. La communauté internationale met en tout cas la pression. Mettre l'agriculture et la ruralité au cœur de la campagne, c'est la stratégie de certains candidats pour les européennes, vous les entendrez. Il est blanc, il est plus grand et moins gourmand en énergie. Présentation dans ce journal du TGV M, dernier né d'Alstom pour la SNCF. Et puis en basket, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama à Paris pour deux matchs de NBA. Pour beaucoup, c'était un rêve. Cela va devenir la réalité.
France Inter.
Il a donc rendez-vous à l'automne devant le tribunal correctionnel de Paris. Gérard Depardieu sera jugé cette année, en octobre, pour agression sexuelle. Sa convocation lui a été remise tout à l'heure après une journée passée en garde à vue dans un commissariat du 14e arrondissement de la capitale. L'acteur de 75 ans, considéré par beaucoup comme un monstre sacré du cinéma, est mis en cause suite au tournage du film Les Volets Verts en 2021. Il est accusé par deux femmes, Ariane Grissel.
L'une de ces deux femmes était assistante réalisatrice sur le tournage, l'autre, décoratrice, toutes deux ont porté plainte au début de cette année. L'assistante réalisatrice décrit à nos confrères de Mediapart des attouchements à la poitrine et sur les fesses de la part de l'acteur à trois reprises. Gérard Depardieu finit par s'excuser, mais lui fait vivre, dit-elle, un calvaire sur le tournage. Tandis que sa collègue décoratrice détaille la force phénoménale de l'acteur qui la maintient. Il me pétrit le ventre, la taille en remontant jusqu'à mes seins. Geste accompagné, selon son récit, de mots extrêmement crus. Gérard Depardieu lui conteste les faits. Pendant sa garde à vue, il a été confronté à cette dernière plaignante, mais il n'était pas convoqué que pour ces deux plaintes. Une troisième femme l'accuse de gestes similaires sur un tournage, cette fois en 2014, celui du film Le magicien et les siamois. Elle aussi a été confrontée à l'acteur ce lundi, mais les faits sont prescrits et ne pourront dans tous les cas pas être jugés. Elle peut en revanche venir témoigner à l'audience du mois d'octobre.
Et Gérard Depardieu est déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle après une plainte de la comédienne Charlotte Arnaud. Arnaud Lagardère, lui, est mis en examen ce soir. L'homme d'affaires de 63 ans est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles pendant plusieurs années. Il était entendu aujourd'hui à Paris par une juge d'instruction. Un cessez-le-feu de 40 jours associé à la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Voilà la nouvelle proposition présentée au Hamas pour tenter de mettre fin aux hostilités dans la bande de Gaza. L'information a été donnée aujourd'hui par le ministre britannique des Affaires étrangères. Alors on attend toujours la réponse du Hamas, mais en tout cas la pression internationale est très forte, Étienne Monin.
Les États-Unis, le Qatar, les Égyptiens et semble-t-il Israël ont mis leur poids dans la balance. Cette proposition est extrêmement généreuse, a déclaré le secrétaire d'État américain qui est actuellement en Arabie Saoudite. La proposition émane des Égyptiens. Elle est passée entre les mains des Israéliens. On attend maintenant le retour du Hamas depuis le Caire. Elle prévoirait une trêve de 40 jours, la libération de 20 otages, parmi lesquels des femmes et des hommes âgés de plus de 50 ans, en échange de prisonniers palestiniens. Israël aurait assoupli sa position sur le nombre d'otages à libérer et sur la possibilité d'ouvrir des discussions autour d'un cessez-le-feu durable pendant cette période de calme. Jusqu'à présent, les discussions bloquées sur la nature de la trêve, sur le retrait de l'armée israélienne de l'enclave et sur le retour des habitants au nord. La première trêve remonte au mois de novembre. 129 otages sont toujours entre les mains du Hamas, dont 34 ont déjà été déclarés morts par les Israéliens.
Explication d'Étienne Monin. Bénin pour France Inter. La guerre entre Israël et le Hamas qui crée des tensions en France. Exemple avec cette journée mouvementée à la Sorbonne. Des militants pro-palestiniens ont installé des tentes au sein de la prestigieuse université parisienne avant d'être délogés par les forces de l'ordre. D'après son entourage, le Premier ministre lui-même a demandé l'intervention de la police. Vendredi dernier, déjà une mobilisation émaillée de tensions a eu lieu à Sciences Po Paris. D'ailleurs, Valérie Pécresse l'annonce, la région Île-de-France suspend ses financements à Sciences Po. Quelques jours après les nouvelles annonces du gouvernement, les syndicats agricoles et les représentants des filières sont invités à l'Élysée. Une réunion est prévue jeudi avec le président. L'objectif évoquait, je cite, les perspectives de l'agriculture française et européenne. L'agriculture et la crise du monde agricole qui sont d'ailleurs des sujets dont on parle beaucoup à l'approche des élections européennes. Les normes imposées par l'Union européenne sont régulièrement critiquées et les professionnels appellent à du changement. Et justement, certains candidats ont fait de l'agriculture l'axe majeur de leur campagne. En défendant même plus globalement la ruralité, ils espèrent d'ailleurs se démarquer, Antoine Geoffin.
Il faut diviser par deux le nombre de règles dictées par l'UE, avance Willy Schran, troisième sur la liste Alliance Rurale, conduite par Jean Lassalle. Le patron des chasseurs assure qu'il n'a pas attendu la colère des agriculteurs cet hiver pour porter cette revendication. Il souhaite aussi que les exploitants puissent transmettre leurs fermes plus facilement.
On a de telles taxes avec des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Comment voulez-vous pouvoir transmettre une terre qui, dans le fond, vaut cher parce qu'on est de plus en plus peuplé dans tous les pays européens? Comment on peut payer toute sa vie pour un outil de production, même pour ça, simplement sa maison, et quand vous mourrez, vos enfants doivent encore payer.
L'Alliance Rurale pousse pour des prêts à taux zéro pour tout jeune agriculteur qui voudrait s'installer, tout comme le sénateur du Tarn, Philippe Folliot, sur la liste Le Centre, qui veut une Europe moins verticale et une départementalisation des crédits européens.
Vous êtes élu d'un territoire rural, vous avez une demande de subvention à faire. S'il faut que vous adressiez à Bruxelles, ou s'il faut que vous adressiez dans votre capitale régionale, avec ces très grandes régions impersonnelles que nous avons aujourd'hui. Vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu. Par contre, si vous allez à la préfecture de votre département, vous aurez une meilleure écoute.
Philippe Folliot appelle enfin à prendre en compte les contraintes des agriculteurs et qu'avant chaque interdiction de pesticides, l'UE leur fournisse des alternatives fonctionnelles.
Et à un mois et demi du scrutin, la porte-parole du gouvernement l'annonce. Le Premier ministre Gabriel Attal est prêt à débattre avec la tête de liste du Rassemblement national. Hier sur France 3, Jordan Bardella a réitéré sa volonté d'affronter dans un débat le chef du gouvernement. Interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans, interdire les téléphones portables aux moins de 11 ans, pour y ajouter Internet, attendre 13 ans et les réseaux sociaux minimum 15 ans. Voilà les principales recommandations issues d'un rapport d'experts remis demain au gouvernement et révélées dès à présent par plusieurs grands titres de la presse quotidienne régionale. La commission missionnée par l'exécutif alerte notamment sur les multiples conséquences de, je cite, l'hyperconnexion subie des enfants. La situation s'améliore progressivement sur la 13, fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucresson depuis une dizaine de jours. La circulation sera rouverte à partir du samedi 11 mai, mais uniquement dans le sens province-Paris et seulement pour les véhicules légers, annonce de la préfecture des Hauts-de-Seine. Pas de date annoncée pour l'instant concernant l'autre sens. La route a été fermée à cause d'une fissure sur la chaussée. Sur les rails, cette fois, c'est un affaissement de talus qui a mis le bazar dans le Rhône suite aux fortes pluies. La circulation des trains entre Givors et la gare de Lyon-Perrache est suspendue et ne reprendra pas avant au moins samedi matin, affirmation de la SNCF. Lui, pour le coup, ne sera pas sur les rails avant au moins le second semestre de l'année prochaine. Mais je vous propose ce soir de découvrir le dernier né des usines Alstom pour la SNCF. Le TGV M comme modulable, tout en blanc, il possède plus de sièges que les autres trains et on le promet moins gourmand en énergie. Il a été présenté aujourd'hui à Belfort, visite guidée avec Maxime Deps.
Mais ce nouveau TGV, son accueil superstar, fumée bleue et projecteur à sa sortie des entrepôts Alstom ce matin. Ses caractéristiques, sa couleur, vous l'avez dit, blanche pour limiter l'impact des rayons du soleil par forte chaleur. Son nez allongé surtout pour plus d'aérodynamisme encore.
Il a vraiment une gueule ce train.
Le patron d'SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, qui énumère ses qualités.
D'abord plus de place, 20% de place supplémentaire à bord de ce train. Il est modulaire, ce qui veut dire qu'on pourra y mettre
plusieurs voitures de seconde, des places pour le vélo. Et aujourd'hui, avec Alstom, nous sommes confiants de pouvoir avoir ces trains à l'été 2025. Nous en avons absolument besoin.
La SNCF qui n'aurait pas dit non, clairement, à ces rames cet été, mais des retards de fabrication en ont décidé autrement, au plus grand regret du directeur général d'Alstom Transport, Jean-Baptiste Eméo.
Oui, ben, les retards, si vous voulez, on avait ciblé à l'origine, quand on a signé ce contrat, de mettre en service avant les Jeux Olympiques. C'est ce qui avait été communiqué. Je ne vais pas revenir sur le Covid, mais il y a eu un certain nombre d'aléas techniques et industriels qu'il a fallu gérer avec la SNCF. Et aujourd'hui, ben, on arrive avec un train qui quand même va être conforme à ce qu'on attendait de lui.
115 rames au total ont été commandées de ce nouveau train qui seront livrés au compte-gouttes. Les 4-5 premières desserviront le sud-est, réponse à la concurrence de Trenitalia, très agressive ces derniers mois sur l'axe Lyon-Paris.
Et pour acheter ces rames de train, la SNCF a déboursé 3,5 milliards d'euros. Les fans de NBA et plus globalement de basket en rêvaient, eh bien c'est fait, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama disputeront deux matchs en janvier prochain à Paris. Deux rencontres de la saison régulière de la Ligue américaine contre les Pacers d'Indiana. Alors le lieu pour l'instant n'a pas été précisé, mais rendez-vous les 23 et 25 janvier. Après des semaines de rumeurs, c'est désormais officiel, Fanny Le Chavestrier.
Ce n'était qu'un secret de polichinelle. Le patron des Spurs en avait parlé dès janvier. En mars, Wemby en personne avait déclaré aux médias américains qu'il avait hâte d'y être et que ce serait un moment très spécial. Mais c'est donc via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que la Ligue nord-américaine de basket a officialisé la bonne nouvelle. Vidéo montrant la tour Eiffel sous un beau ciel bleu et la statue de la liberté à Paris, habillée d'un maillot des Spurs et avec pour titre « Paris, on revient et pour deux matchs ». C'est en effet la nouveauté 2025. Il y aura cette fois-ci une double confrontation en l'espace de 48 heures entre les Pacers d'Indiana et les Spurs du prodige tricolore de 20 ans. L'ancien joueur de Nanterre qui déchaîne les passions partout où il passe, quatrième plus gros vendeur de maillots NBA dès sa toute première saison aux États-Unis.
Et pour ceux qui ont déjà coché les dates dans leur calendrier, il faudra être patient concernant la billetterie. La date d'ouverture n'est pas encore connue.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Le point sur la météo avec Elodie Calac.
Pas moins de deux perturbations demain. Toujours une de l'Occitanie vers le centre Val de Loire, la Bourgogne et la frontière belge avec des pluies parfois soutenues du Languedoc aux Cévennes le matin. L'après-midi, les pluies seront conséquentes du Languedoc et de la vallée du Rhône vers la Bourgogne avec des orages possibles et de la grêle. Quelques orages pourront remonter vers la région parisienne et le nord de la Seine. Une autre perturbation arrive ce soir sur la Bretagne. Elle apportera des pluies copieuses demain avec un vent de sud. De la Nouvelle-Aquitaine vers la Touraine et la Normandie, ce sera bien ensoleillé. Du nord-est vers la Provence, pas mal de nuages mais du soleil sur l'Alsace. De la pluie sur les Alpes l'après-midi et une tendance orageuse sur le nord-est. Les températures seront en hausse le matin 5 à 14 degrés, l'après-midi souvent 17 à 22 degrés, 13 seulement sous la pluie à Brest, mais 26 à Strasbourg sous le soleil.
Merci Elodie Calac de Météo France.
Demain, Ryan Gosling, invité exceptionnel de la matinale.
France Inter, 7h50, Sonia Deville.
Après le triomphe mondial de Barbie, le chouchou d'Hollywood incarne un cascadeur dans The Fall Guy. À cette occasion, Ryan Gosling nous parle de son vertige, du chien de sa femme et du cinéaste français qui l'a le plus inspiré, Claude Lelouch.
L'interview de 7h50.
Demain matin sur France Inter, avec Ryan Gosling.
France Inter, il est 23h12, place à Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la chute de l'opération Barkhane. En août 2022, les militaires français quittent le Mali pour la première fois depuis près de 10 ans. C'est le début de la fin pour l'opération Barkhane. Dans la foulée, l'armée française est chassée du Burkina Faso puis du Niger. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de cette opération lancée par François Hollande en 2014 dans 5 pays du Sahel. Le Mali, le Burkina et le Niger donc, mais aussi le Tchad et la Mauritanie. Une zone désertique immense, 5 millions de kilomètres carrés, 10 fois la France, et une mission impossible, combattre une multitude de groupes djihadistes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Malgré ses moyens importants, et malgré quelques victoires, tout de même, l'armée française est incapable de stopper leur avancée. Au fil des ans, les djihadistes gagnent du terrain, des sympathisants aussi, et ils multiplient les attaques spectaculaires. Au Sahel, face à cette inefficacité, des drapeaux tricolores sont brûlés. des ambassades françaises sont attaquées. En l'espace de 2 ans, la France, ses militaires, mais aussi ses diplomates, sont chassés de 3 pays africains, son ancien précaré, 3 ex-colonies, qui sont désormais dirigées par des juntes militaires hostiles à Paris. Notre invitée aujourd'hui, Niagale Bagayoko, chercheuse spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et des questions militaires. Elle préside l'African Security Sector Network et dirige le programme Afrique de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Rémi Carayol, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Nous sommes le 15 août 2022. C'est l'Assomption, la France est à la plage, les politiques sont en vacances et les rédactions sont désertées. C'est le moment idéal pour annoncer une nouvelle peu glorieuse, comme le départ définitif de l'armée française au Mali, par exemple. Qui sait, peut-être passera-t-il inaperçu. Ce 15 août, donc, 9 ans, 7 mois et 4 jours, très exactement après son arrivée triomphale dans le pays, sous les vivas de milliers de Maliens, voilà que l'armée française le quitte sans tambour ni trompette, dans la plus grande discrétion. Dans la matinée, l'Élysée publie un simple communiqué. Quelques heures avant, les derniers soldats de la force Barkhane ont dit adieu à la base de Gao, la grande ville du Nord Mali, direction le Niger. Il fait encore nuit, c'est l'aube naissante. La journaliste de RFI, Mounia Daoudi, est sur place.
C'était la base principale de l'opération Barkhane. Elle a accueilli jusqu'à 3100 personnes. C'est ici qu'étaient basés les fameux GTD, les groupements tactiques désert, qui pendant plus de 8 ans ont sillonné le Sahel dans leur combat sans merci contre les GAT, les groupes armés terroristes.
Vous allez au niveau du sel, on va le faire charger celui-là, on n'en aura pas l'utilité.
Il ne reste plus grand-chose de cette petite ville construite en 9 ans et qu'il a fallu désengager en 6 mois. Démanteler ses zones de vie, vider l'hôpital et son antenne chirurgicale, même la tour de contrôle a été démontée.
Après ce départ, la France ne compte plus aucun soldat au Mali. Officiellement, l'opération Barkhane se poursuit dans les autres pays de la région sahélienne, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad et en Mauritanie. Mais en réalité, ce retrait marque la fin officieuse de cette opération la plus importante en Afrique depuis la guerre d'Algérie, une opération qui a mobilisé des milliers de soldats et au cours de laquelle 59 d'entre eux ont perdu la vie. Les conditions de ce départ illustrent à elles seules l'échec de la France. On rase les murs. Il n'y a aucune cérémonie, aucune photo avec l'armée malienne, à qui la France rend cette base stratégique située au cœur de l'aéroport de Gao. Il faut dire que les relations entre Paris et Bamako se sont considérablement détériorées ces derniers mois. Certes, c'est le président français Emmanuel Macron qui le premier parle d'un retrait en juin 2021. Mais c'est le Mali ensuite qui exige un départ accéléré et qui sous-entend même que la France est complice des djihadistes. Quel contraste avec l'arrivée des premiers soldats français en janvier 2013. Avant Barkhane, il y a eu Serval. Souvenez-vous, début 2013, les groupes djihadistes qui occupent le nord du Mali depuis quelques mois font mouvement en direction des villes de Kona, de Diabali et de Sévaré dans le centre du pays. En France, on parle même d'une descente sur Bamako, la capitale. Bon, c'est fort peu probable, mais la menace fait son effet. Pour le gouvernement comme pour l'armée, il faut agir au plus vite si l'on ne veut pas voir un allié tomber aux mains des djihadistes, dont certains sont liés à Al-Qaïda. Le 11 janvier 2013, à la demande du président malien Diokunda Traoré, François Hollande déclenche l'opération Serval. La France entre en guerre au Mali. Le président l'annonce aux Français dans une allocution solennelle.
Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. J'informerai régulièrement les Français sur son déroulement.
Ce sont d'abord les forces spéciales qui entrent en action. Depuis plusieurs années, elles sont stationnées à Ouagadougou, la capitale du Burkina voisin. Puis arrivent les forces conventionnelles, qui viennent d'un peu partout, d'Abidjan, de Dakar et de France, bien sûr. En quelques jours, près de 5000 soldats sont déployés. Un mois plus tard, les principales villes du Nord ont été reconquises. Gao, Tombouctou et enfin Kidal. C'est un succès. Les djihadistes n'ont pas fait le poids d'ailleurs. Ils n'ont d'ailleurs pas combattu et ont préféré se réfugier dans leur sanctuaire situé dans le désert, dans l'extrême nord du Mali ou en Libye. Le 2 février, la situation est sous contrôle. François Hollande décide de se rendre au Mali pour célébrer ce que l'on considère alors comme une victoire. À Tombouctou d'abord, puis à Bamako, où il est salué par une foule en liesse et où les drapeaux français volent au vent.
La France est à vos côtés. Non pas pour servir je ne sais quel intérêt. Nous n'en avons aucun. Non pas pour protéger telle ou telle faction ou pour telle ou telle partie du Mali. Non, nous sommes à vos côtés. Pour le Mali tout entier et pour l'Afrique de l'Ouest.
À cette époque, les autorités françaises évoquent déjà un retrait. Autrement dit, on ne s'installe pas. Deux mois plus tard, quand les derniers refuges des djihadistes ont été, je cite, « nettoyés par la force Serval », on parle de plier bagages d'ici la fin de l'année. Le temps d'organiser une nouvelle élection présidentielle et de laisser le pays en bon ordre, assure-t-on. L'élection a lieu au mois d'août. Ibrahim Boubacar Keïta, un vieux routier de la politique malienne, est élu pour 5 ans avec un peu plus de 77% des suffrages. La France, qui en avait fait son favori, lui fait confiance, c'est clair. C'est l'homme de la situation, pense-t-on à Paris. Et puis, il bénéficie de l'appui de l'ONU qui envoie 11 000 casques bleus dans le cadre d'une mission de maintien de la paix intitulée la MINUSMA. Dès lors, on ne parle déjà plus d'un retrait quand Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka par tous les Maliens, est investi en présence de François Hollande. À la fin de l'année, la force Serval compte toujours plus de 4000 soldats qui continuent de traquer les derniers djihadistes. L'ennemi est affaibli, certes, mais il n'a pas été éradiqué comme le voulait le président français. La situation sur le terrain reste donc confuse. Alors il faut continuer cette guerre, estime-t-on à Paris. Et il faut même l'étendre. Alors plutôt qu'un retrait du Mali, eh bien c'est l'inverse qui se produit. Le 19 juillet 2014, François Hollande se rend à N'Djamena, la capitale du Tchad, d'où décollent notamment les avions de chasse de l'opération Serval. Aux côtés de l'autocrate Idriss Déby Itno, qui règne sur le pays depuis 24 ans, il annonce la transformation du dispositif militaire français en Afrique de l'Ouest et l'opération Serval change de nom. Elle devient l'opération Barkhane. Sa mission est étendue à 4 autres pays.
Serval aura duré 16 mois. La fin de l'opération militaire française dans le nord du Mali, annoncée ce matin, ne signifie pas le retrait des soldats envoyés sur place. Au contraire, Simon Tivol, l'armée française élargit ses objectifs et son terrain d'action. Seul l'adversaire ne change pas, c'est toujours le terrorisme.
L'opération Serval, c'était le Mali en urgence. Avec l'opération Barkhane, on entre dans une dimension régionale et sur le long terme. Il s'agit maintenant d'éviter la même chose dans les pays voisins, qui sont tous sous la menace de forces armées, mi-djihadistes, mi-trafiquants. Cette volonté de la France d'être présente d'ouest en est de la bande sahélo-saharienne a des conséquences militaires. Les cartes sont redistribuées avec le commandement à N'Djamena et des moyens, avions, hélicos, drones, forces spéciales répartis sur toute cette zone, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad.
Au début, tout fonctionne. Du moins, c'est ce qu'on croit. En juin 2015, près d'un an après l'annonce de François Hollande au Tchad, un accord de paix signé entre le gouvernement malien et plusieurs groupes armés du nord du pays, notamment les indépendantistes Touareg du MLNA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Les négociations ont été tendues. Il a fallu que la France, mais aussi l'Algérie, tordent le bras aux deux parties pour aboutir à cet accord. Il sera difficile à mettre en œuvre, personne n'en doute. Mais c'est un grand pas vers la paix, estime-t-on à l'époque. Désormais, la France et les 5 pays sahéliens réunis dans le G5 Sahel peuvent concentrer leurs efforts sur les groupes djihadistes. Durant les premiers mois de Barkhane, l'armée française multiplie les opérations au Mali principalement et accumule ce que les militaires appellent des victoires tactiques. Les groupes djihadistes semblent en effet acculés. Chaque semaine, ils perdent des hommes par dizaines, des chefs aussi, et pas des moindres. Abou Zaïd en 2013, Ould Amaha en 2014 et le tristement célèbre Mokhtar Belmokhtar en 2016. Au fil des mois, la liste des HVT liquidés, autrement dit les High Value Target, les cibles de haute valeur, ne cesse de s'allonger. C'est ce qu'on appelle dans l'armée « tondre la pelouse ». Une image pour dire qu'on coupe ce que l'on peut, même si on sait que l'herbe repoussera derrière. Ça n'est pas l'assurance de l'emporter, mais ça fait gagner du temps. Et ça fragilise les groupes djihadistes, estime-t-on à l'état-major. En réalité, ces chefs sont très vite remplacés, et parfois par des hommes plus durs encore, plus radicaux, mieux organisés. Dans ces zones, depuis longtemps délaissées par les pouvoirs publics, où chacun fait ce qu'il peut pour survivre, les bandes djihadistes n'ont aucun mal à recruter. Non seulement elles vont reprendre leur offensive, mais en plus, elles vont l'étendre. Ainsi apparaît un nouveau groupe dans le centre du Mali en 2015, Katiba Massina. En quelques mois, il prend le contrôle d'une grande partie du centre du Mali. Puis, d'autres groupes mènent des attaques au Burkina et au Niger, dans la région malienne de Menaka également, et dans celle de Kidal. Après s'être terrés, les djihadistes, en fait, se sont réorganisés. Il ne s'agit plus d'occuper les grandes villes, comme en 2012, mais de prendre le contrôle maintenant de zones rurales. Et ils ne cessent de gagner du terrain et des sympathisants, et ils multiplient les assauts spectaculaires dans les capitales. À Bamako, en 2015, dans un bar fréquenté par des expatriés, puis dans un hôtel de luxe, ou encore à Ouagadougou, en janvier 2016, dans l'hôtel Le Splendide et le bar Le Cappuccino. Le correspondant de RFI, Yahya Boudani, intervient en direct au cours de cette attaque.
Alors, à l'heure où nous parlons, les forces de défense et de sécurité sont en train de peaufiner leur stratégie. Ils se mettent petit à petit en place autour de l'hôtel à l'aide de leurs véhicules et des hommes en nombre, à quantité assez suffisante. On a entendu tout à l'heure quelques tirs, des échanges de tirs entre les preneurs d'otages et les forces de défense et de sécurité qui essaient de s'approcher de l'hôtel.
Et est-ce que vous entendez des tirs en ce moment, Yaya ?
Il y a à peine 5 minutes, on a entendu des échanges de tirs nourris entre les forces de défense et de sécurité et les preneurs d'otages. Mais là, pour le moment, c'est le calme et les forces de défense et de sécurité. Voilà, les tirs viennent de reprendre. C'est les forces de défense et de sécurité qui essaient en ce moment de s'approcher de l'hôtel.
Malgré tous ces moyens, ces 3000 hommes, ces avions de chasse, ces satellites et ces drones, l'armée française semble dépassée, oui, comme si elle avait toujours un coup de retard. Et ses alliés locaux ne font pas toujours le poids. L'armée malienne est encore trop fragile. Incapable de prendre le dessus sur l'ennemi, elle fait surtout parler d'elle en commettant des exactions contre les civils. Les armées burkinabées et nigériennes ne font guère mieux, et les bavures se multiplient. Barkhane, elle-même, est montrée du doigt. En novembre 2016, des soldats français en effet tuent un enfant de 8 ans dans l'extrême nord du Mali, puis l'enterrent en catimini, provoquant la colère de la famille. En janvier 2021, ils bombardent une cérémonie de mariage dans le centre du Mali, bilan 22 morts, dont 19 civils. Incapable de vaincre l'ennemi, incapable de concevoir une autre approche, la force Barkhane suscite des interrogations et des critiques de plus en plus vives. En France, d'abord. Des chercheurs parlent d'une impasse, d'un piège. Ils dénoncent l'aveuglement des dirigeants français, enfermés dans une logique antiterroriste, alors qu'ils font face, en réalité, à des insurrections locales. La France refuse toute discussion avec les djihadistes, quand bien même au Mali, au Niger et au Burkina, on commence à évoquer cette possibilité. Mais c'est surtout au Sahel que Barkhane est critiqué. Et des rumeurs se répandent. Et s'ils n'étaient pas là pour nous aider, se demandent de plus en plus de Sahéliens. Et s'ils étaient là pour exploiter les richesses de notre sous-sol? Même un ministre burkinabé s'interroge à haute voix. Comment se fait-il qu'avec tous leurs moyens, ils n'arrivent pas à éradiquer cette bande de terroristes? Sur les réseaux sociaux, les thèses complotistes font florès. À partir de 2019, les manifestations hostiles à la France se multiplient. Au Mali, mais aussi au Niger, au Tchad et au Burkina, dehors la France, entend-on, comme ici, à Bamako, en janvier 2020.
Vendredi dernier, des centaines de personnes se rassemblaient encore dans le centre de Bamako, à coups de discours anti-français virulents.
Avant la France !
Des manifestations qui ont tendance à devenir une habitude. Qu'il est loin le temps où la France était acclamée par la population malienne, en janvier 2013, quand l'armée française permettait de repousser les groupes djihadistes en route vers Bamako. Que s'est-il donc passé pour en arriver là ? La colère se nourrit d'abord d'un soutien de la France à un pouvoir malien considéré par beaucoup comme incompétent.
Le président ne peut pas être clair, parce que c'est la France qui les élit. Tous les présidents africains, ils sont à la merci de la France.
Et la population de reprocher aussi à l'armée française d'être incapable de repousser les djihadistes.
Pourquoi avec tout ce monde-là, avec tout le monde qui sont là-bas, et que ces terroristes-là viennent, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais c'est ça qui m'étonne.
À Paris, le gouvernement crie à la désinformation et pointe du doigt la Russie qui serait derrière cette attaque informationnelle, comme ils disent les spécialistes. Mais contre toute évidence, Paris estime que Barkhane est un succès. Certes, l'armée française enchaîne les opérations et les frappes ciblées, mais les groupes djihadistes ne cessent de gagner du terrain. Ils occupent désormais des pans entiers du Mali, dans le nord et dans le centre, mais aussi du Burkina, dans le nord, l'est et l'ouest. Cette intervention militaire ne peut plus durer. Il faut changer d'approche. Cela ne fait plus aucun doute. D'autant que le nombre de morts côté français augmente dangereusement. Le 25 novembre 2019, deux hélicoptères français entrent en collision dans l'est du Mali. 13 militaires sont tués dans cet accident. Une tragédie. Quelques semaines plus tard, Emmanuel Macron convoque les chefs d'État du G5 Sahel. Ils ont rendez-vous le 13 janvier 2020 à Pau, là où étaient basés la plupart des soldats morts dans l'accident. Le président français tape du poing sur la table. Il exige de ses homologues plus de solidarité. Il ne veut plus voir de manifestations anti-françaises. Et il réclame un sursaut militaire. Il veut plus d'opérations, plus de résultats. 600 soldats français sont envoyés en renfort. Barkhane en compte désormais plus de 5000. Mais sa méthode cavalière, fort peu diplomatique, provoque un tollé dans les pays concernés, et notamment au sein des armées. Parce qu'on ne convoque pas un chef d'État africain comme un simple préfet. De surcroît pour lui passer un savon. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la chute de l'opération Barkhane.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
8 mois ont passé depuis le sommet de Pau quand des bruits de bottes se font entendre à Bamako. Ibeka, le chef d'État malien, est de plus en plus contesté. Corrompu, dit-on de lui, incapable. Il fait face maintenant à une large coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile qui exigent sa démission. Et, comme souvent dans un tel contexte, c'est l'armée qui a le dernier mot. Le 18 août à l'aube, des tirs sont entendus à Kati, le camp principal de l'armée malienne situé à 15 km de Bamako. Quelques heures plus tard, des militaires cueillent le président à son domicile.
Les militaires sont allés l'arrêter chez lui. Quelques heures plus tard, en pleine nuit à la télévision publique, le président Ibrahim Boubacar Keïta démissionne après 7 ans au pouvoir.
Ai-je réellement le choix m'y soumettre ? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires.
Tout aura basculé en une journée. Hier matin, une mutinerie éclate dans la base militaire de Kati, à 15 km au nord de Bamako. Des convois militaires armés prennent la direction de la capitale où la foule rassemblée dans le centre-ville les accueille en libérateur.
Le Mali tout entier a été libéré aujourd'hui par une force républicaine. La population malienne le soutient de haut et en bas.
Au lendemain de la démission de Boubacar Keïta, les organisateurs du coup d'État militaire affirment rester les alliés de la force Barkhane déployée par la France au Sahel et promettent de nouvelles élections.
Des alliés, des élections. Aucune de ces deux promesses ne sera tenue par les militaires. On ne le sait pas encore sur le moment. Mais ce 18 août 2020, c'est tout l'édifice construit par Paris depuis des années qui s'écroule avec la chute d'Ibeka. Au début pourtant, rien ne semble avoir changé. L'armée française continue de mener des opérations seule ou avec l'armée malienne. Et à Paris, on se veut pragmatique. On pense que les militaires offrent une alternative possible à une classe politique impopulaire et qu'ils seront peut-être même plus efficaces dans la guerre contre les djihadistes. D'ailleurs, quelques mois plus tard, Emmanuel Macron ne cache pas sa satisfaction au cours d'un sommet entre chefs d'État. En quelques mois, je dois bien dire que ces autorités de transition ont donné plus de gages que les autorités précédentes en 3 ans, déclare-t-il. Un peu trop vite. Car en coulisses, les choses ne se passent pas si bien que ça. Depuis leur coup d'État, les colonels putschistes se sont répartis les tâches. Assimi Goïta est le vice-président et le véritable homme fort de la transition. Mais il doit composer avec 2 hommes. 2 civils que leur a imposé la communauté internationale, Bandao, le président de la transition, et Mokhtar Wan, qui dirige le gouvernement. Au fil des mois, les tensions se sont accrues entre les putschistes et ces 2 civils. Et cela ne peut plus durer. Le 24 mai 2021, Assimi Goïta les met aux arrêts. C'est un nouveau coup d'État. En fait, c'est un coup d'État dans le coup d'État. Pour le justifier, les colonels avancent plusieurs arguments et notamment la trop grande proximité des 2 hommes avec Paris. La rupture est consommée. Dans la foulée, Emmanuel Macron annonce la suspension de la coopération militaire avec le Mali et sa volonté de mettre fin à l'opération Barkhane et de, je cite, « transformer en profondeur la présence militaire française au Sahel ». Mais les noms d'oiseaux pleuvent de part et d'autre. Bamako accuse Paris de l'abandonner. Paris dénonce la dérive autoritaire de Bamako. Des rumeurs évoquent un rapprochement de la junte avec la Russie et parlent d'un déploiement des mercenaires de groupe Wagner dans le pays. Ils ne tarderont pas à arriver, en effet. En septembre, le nouveau Premier ministre Choguel Kokala Maïga accuse la France devant le monde entier à la tribune des Nations Unies.
La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli, et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome, avec d'autres partenaires, de manière à combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali.
Quelques mois plus tard, le Mali exige au plus vite le départ des soldats français. Et ce n'est qu'un début. Quelques semaines avant le second coup d'État des colonels, la France perd son meilleur allié dans la région, Idriss Déby Itno. L'autocrate trouve la mort à 300 km de N'Djamena, alors que son armée affronte un groupe rebelle venu de Libye. Dans la foulée, le clan au pouvoir opère un coup d'État institutionnel et impose à la tête du pays le fils du président, le général Mahatma Idriss Déby. L'Élysée approuve. Mais Déby fils, qui n'a que 37 ans, n'a pas la même stature que Déby père, et il est contesté au sein de sa propre famille. Puis c'est du Burkina que vient une autre mauvaise nouvelle, ce pays où la France compte un contingent de force spéciale, la force Sabre, 300 militaires formés pour mener les missions les plus délicates. C'est l'élite de l'armée, la crème de la crème, qui intervient pour tuer les chefs djihadistes ou pour libérer des otages. En janvier 2022, le président Kaboré, incapable de résoudre la crise sécuritaire, est à son tour déchu par un coup d'état militaire. Le nouvel homme fort, le lieutenant-colonel Damimba, veut continuer à travailler avec la France. Mais lui aussi finit par être renversé. Et 8 mois plus tard, le capitaine Ibrahim Traoré le chasse du pouvoir. Et lui, il n'en veut plus l'armée française. Alors que le coup d'État n'est pas encore achevé, il accuse la France de protéger Damimba. Immédiatement, des centaines de partisans s'attaquent à l'ambassade de France à Ouagadougou.
Ils sont une dizaine en train d'arracher les fils barbelés qui protègent l'ambassade de France. À côté, des petits groupes mobiles jettent des pierres sur le bâtiment et tentent d'y mettre le feu. Sur le toit, des soldats français répliquent avec du gaz lacrymogène. Hier, toute la journée déjà, la représentation française avait été prise d'assaut violemment. Les manifestants tentent en vain de pénétrer dans le bâtiment et crient leur haine de la France.
On est en train de mettre le feu à l'ambassade.
On veut plus la France. On veut plus la France dans notre pays. À part les Français. Les Français sont ici. Ils n'ont rien fait pour le Burkina.
Quelques mois après ce nouveau coup d'État, la junte burkinabé exige le départ de la force Sabre et celui de l'ambassadeur. Ici aussi, la rupture est consommée. En février 2023, les militaires français quittent le pays pour la première fois depuis 14 ans. Reste le Niger, l'allié le plus sûr de Paris. Le président Mohamed Bazoum estime qu'il a besoin de l'armée française, mais aussi de l'armée américaine, qui dispose d'une base dans le nord du pays, à Agadez, pour combattre les groupes djihadistes. La France mise donc tout sur lui. Une partie des soldats et du matériel qui ont quitté le Mali s'installent donc au Niger. 1500 hommes en tout, répartis entre la base de Niamey, située au sein de l'aéroport, et quelques bases secondaires. Leur mission est toujours la même, lutter contre les groupes djihadistes. Sauf que désormais, ils doivent agir en soutien, et seulement en soutien à l'armée nigérienne, et non plus en solo comme c'était le cas au Mali. Et il faut être le plus discret possible, c'est le mot d'ordre. Il y a une raison à cela, Bazoum est fragile. Et au Niger, comme dans les autres pays, la population s'irrite de la présence de l'armée française. Ici aussi, on a manifesté contre la France. Tout le monde a en tête les affrontements qui se sont déroulés dans la ville de Terra le 27 novembre 2021. Ce jour-là, des centaines de manifestants bloquent un convoi de l'armée française qui doit se rendre à Gao. Ils ne veulent pas le laisser passer. La gendarmerie nigérienne est débordée, l'armée française aussi, comme l'explique un officier interrogé sur RFI.
Le capitaine François-Xavier, chef du convoi Voie Sacrée, n'imaginait pas que ces 2000 km de route seraient si chaotiques. Ces convois logistiques d'une soixantaine de poids lourds escortés par une centaine de soldats, c'est d'habitude une routine. Pas cette fois. Bloqué par des manifestants à Kaya au Burkina, la situation est réellement devenue explosive moins de 30 km après le passage de la frontière nigérienne à Terra, où étaient dressés des barricades, capitaine François-Xavier.
J'estime avoir fait face à une véritable guérilla urbaine. En même temps que je gérais la situation devant, j'entendais que le convoi se faisait attaquer derrière, que les civils se faisaient prendre la partie au milieu, ce qui nécessitait en permanence d'adapter le dispositif. Des insultes et une volonté de ne pas nous voir sur leur territoire, de faire marche arrière.
Bloqué, l'armée fait d'abord usage de grenades lacrymogènes. Puis un avion survole les manifestants pour les effrayer. C'est ce que les militaires appellent un « show of force ». Mais rien n'y fait. Après quelques heures, les soldats ouvrent le feu. Le bilan est lourd, 3 morts et 17 blessés. Voilà qui n'arrange pas l'image de la France dans la région. Après cette affaire, les officiels français ne peuvent plus nier l'évidence. Barkhane est une force contestée, voire haïe. Elle est perçue à tort estime-t-il, comme une force d'occupation. Et c'est bien pour cela qu'il faut être le plus discret possible. Mais rien n'y fait. C'est une vague de dégagisme sans précédent qui touche l'Afrique de l'Ouest. Le 26 juillet 2023, le coup de grâce est donné par l'armée nigérienne. C'est au tour de Bazoum d'être renversé.
Coup d'État au Niger cette nuit. La garde présidentielle qui retenait le président Bazoum, démocratiquement élu il y a 2 ans, dans sa résidence officielle depuis hier matin, a été rejointe par l'armée, la police, la gendarmerie. Les soldats encerclent le palais. Déclaration du colonel-major à la télévision qui annonce la suspension de toutes les institutions, la fermeture des frontières, l'instauration d'un couvre-feu. La France, les États-Unis, l'ONU condamnent. Le Niger était l'un des derniers pays alliés des Occidentaux au Sahel. Cette région ravagée par la violence djihadiste, le Mali et le Burkina Faso, déjà dirigés par des militaires putschistes, sont tournés vers d'autres partenaires comme la Russie.
La France envisage d'intervenir militairement pour sauver son dernier allié. Mais l'opération est trop risquée. Quelques jours après ce putsch, c'est un scénario désormais bien rodé qui se joue. La junte exige le départ de l'ambassadeur et des militaires français. Elle accuse la France de jouer un double jeu, un bon moyen de gagner en popularité. Immédiatement, des milliers de manifestants font le pied de grue devant l'entrée de la base française. Dehors la France, entend-on à nouveau. Emmanuel Macron résiste, dans un premier temps. Puis il doit se rendre à l'évidence, et l'armée française plie bagage. En décembre 2023, il ne reste plus un seul Français au Niger. L'opération Barkhane est bel et bien enterrée. De l'édifice bâti en 2014, il ne reste aujourd'hui que la base de N'Djamena. Mais pour combien de temps? Les responsables français ont beau parler d'un succès encore aujourd'hui et le répéter tel un mantra, l'armée se retire du Sahel sur un échec. Elle laisse une région à feu et à sang, où les morts se comptent par milliers chaque année, où les groupes djihadistes continuent lentement mais sûrement de gagner du terrain, où les juntes s'éternisent au pouvoir et où la Russie et le groupe Wagner tentent de prendre la place laissée vacante. De toute façon, cette mission française était impossible. Trop floue, trop mal pensée. On ne combat pas des insurrections locales en menant des opérations antiterroristes. Opérations trop longues, surtout. Peut-être les Français n'ont-ils pas su partir quand il était encore temps.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la chute de l'opération Barkhane. Notre invité, Niagale Bagayoko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et des questions militaires. Vous présidez l'African Security Sector Network et vous dirigez le programme Afrique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Et vous avez récemment publié une note pour l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, intitulée « L'armée française au Sahel, un corpus doctrinal à l'épreuve ». Ben justement, quel bilan peut-on tirer de ces 10 années de guerre menées au Sahel par l'armée française? Est-ce que vous êtes d'accord, déjà, pour que les choses soient claires, sur la notion d'échec?
Oui, je pense que l'échec est absolument incontestable. Il est très difficile de nier que la France, en dépit de toutes les ambitions qu'elle a affichées haut et fort, s'est retrouvée incapable, en réalité, de remplir la mission qu'elle s'était donnée, à savoir l'éradication des groupes armés terroriste. Et c'est sans doute parce qu'elle a communiqué de manière excessive autour de cet objectif qui n'était pas atteignable ni au Sahel, ni sur d'autres théâtres, comme on l'a vu ailleurs. Il ne faut pas oublier que l'opération au Sahel se déroule en même temps que l'opération en Afghanistan, en même temps que les opérations au Moyen-Orient, enfin en Irak, en Syrie, où l'on essuie également des échecs, alors que l'on affirme vouloir combattre, mener une guerre contre le terrorisme. Et c'est à mon avis à cet égard-là qu'il y a eu une erreur majeure qui touche à une insuffisante analyse du contexte local, une insuffisante compréhension des dynamiques extrêmement spécifiques, extrêmement complexes, dans lesquelles se sont produites un certain nombre d'attaques, bien entendu à caractère terroriste, mais qui n'étaient qu'à mode opérationnel et qui ne permettaient n'était absolument pas de réduire à ce qualificatif les forces contre la France, contre lesquelles la France était engagée.
un schéma qu'on retrouve à travers le monde et à travers les époques. Absolument. C'est-à-dire la méconnaissance du contexte local, l'intervention malgré tout, avec ses gros moyens.
Absolument.
Sauf que les gros moyens l'emportent pas toujours devant des insurrections locales aussi, qu'on ne comprend pas forcément. Est-ce que c'est ça aussi les ingrédients de l'échec ?
Je pense en effet qu'on est dans une dynamique de temps long en réalité. Hein, vous faites bien d'invoquer l'histoire à l'appui de l'analyse qu'on essaie de mener aujourd'hui. On s'aperçoit, à mon avis, que depuis les guerres de décolonisation, il n'y a pas eu de victoire militaire de quelque acteur que ce soit. C'est le cas, bien entendu, des Américains au Vietnam. Mais si l'on y réfléchit, c'est le cas aussi des Russes en Afghanistan, à l'heure où l'on voit la Russie comme le nouveau partenaire auquel on prête des capacités de réussite, particulièrement sur le théâtre africain. Non, il faut se rendre compte que l'on est face à des acteurs locaux qui non seulement maîtrisent les dynamiques internationales, les dynamiques de la coopération, les instrumentalisent aussi très souvent, mais qui aussi maîtrisent parfaitement les réseaux de prise de décision, de collaboration ou de compétition qui existent à l'échelle locale. Et l'une des erreurs qui a été commise, notamment, c'est de ne pas voir, particulièrement au Mali, à quel point était fondamental aux yeux de toutes les autorités, non pas seulement de la junte militaire, mais des autorités civiles, avant tout la protection, la préservation de l'intégrité du territoire malien contre les velléités sécessionnistes des rébellions du Nord, notamment Touareg. Je pense qu'il y a une divergence d'analyse stratégique qui a été insuffisamment analysée côté français et qui explique en grande partie l'échec que l'on a pu voir parmi, bien entendu, d'autres facteurs. Notamment, à mon avis, la façon dont on a mis beaucoup trop en avant la capacité de la technologie à éradiquer ces groupes armés terroristes, ce qui a prêté le flanc à toutes les théories du complot que vous avez mentionnées tout à l'heure.
Alors, de l'avis général, l'opération Serval, pas Barkhane, Serval a été un succès. Pourquoi l'armée française n'est-elle pas partie au bout de quelques mois après avoir quand même rempli une partie de sa mission, comme l'avait annoncé François Hollande ? Il avait dit, on ne s'installe pas. Puis on s'est installé. Pourquoi on s'installe ?
Alors, absolument, c'est l'une des grandes interrogations qui demeure quand on fait le bilan de cette dizaine d'années que la France a passées au Sahel. En réalité, il semble y avoir eu des divergences au sein même de l'appareil de décision français. Je pense qu'il est très très important de déconstruire la décision. Il y a un très bon ouvrage d'ailleurs qui est paru à cet égard, qui s'appelle Entrée en guerre au Sahel, dirigée notamment par Johanna Siméan, et qui montre bien le rôle des différents centres de décision. Au sein même de l'armée, il me semble qu'il y a eu des voix qui se sont aussi élevées assez tôt pour mettre en garde contre l'échec qui semblait se profiler, ou en tout cas qui ont pointé de manière très réaliste les difficultés rencontrées. On l'a vu notamment du côté des forces spéciales qui, très vite, pour certaines, ont considéré qu'en effet, il y avait des dynamiques de nature insurrectionnelle, que la lutte anti-terroriste, donc les actions de ciblage notamment, que vous avez mentionnées, ne permettaient pas de prendre en charge de manière efficace et surtout prolongée.
France Inter. Affaires sensibles.
Niagale Bagayoko, pardon. On a vu à quel point cette opération Barkhane était un échec. Mais si je vous entends bien, le problème semble endogène. Il n'est que français, manque de lucidité de nos gouvernants sur la difficulté de la tâche. Mais est-ce que les Africains eux-mêmes portent une responsabilité dans cet échec-là ? Est-ce qu'ils auraient pu coopérer avec l'armée française de façon plus efficace ?
Alors, l'échec de l'opération Barkhane est largement endogène, mais la situation absolument dramatique dans laquelle s'enfonce le Sahel depuis la fin des années 2000 renvoie à un échec absolument collectif, non seulement de l'ensemble des partenaires internationaux, qu'il s'agisse des partenaires qui interviennent à titre bilatéral ou à titre multilatéral, mais bien entendu des gouvernements de la zone, d'accord, dont on voit très bien qu'aucun n'a réussi à enrayer cette progression et, plus grave, cet enracinement des groupes armés terroristes, notamment, mais également de beaucoup d'autres formes d'insécurité, puisque au-delà de ces groupes, on a vu proliférer également des groupes d'autodéfense qui se sont livrés à des massacres sur des populations civiles. La criminalité organisée, avec ce que les populations locales appellent les bandits, est absolument endémique dans la zone. On voit aussi que les rébellions politico-militaires, on parlait de celles du nord du Mali, mais nous, et vous avez aussi évoqué celles du Tchad, sont également particulièrement actives dans la zone. Et on voit très exactement se produire ce qui a été analysé pendant des années par les chercheurs, c'est-à-dire l'effondrement des structures de gouvernance de type démocratico-libéral telles qu'elles ont été promues, pas uniquement par des États ou des organisations multilatérales, mais aussi par des ONG, par des fondations. Donc l'échec est absolument collectif, et bien entendu, les États sahéliens en ont une grande part à prendre.
Alors, la conséquence fâcheuse aussi de tout cela, c'est qu'on entend un sentiment anti-français, qu'on a entendu plusieurs fois, et puis ces questions, qui sont peut-être légitimes d'ailleurs, des Africains, mais pourquoi ils n'arrivent pas à éradiquer des groupes terroristes? Pourquoi cette armée semble incompétente? En fait, qu'est-ce qu'elle fait chez nous? Est-ce qu'elle vient vraiment nous aider contre les djihadistes, ou est-ce qu'elle a d'autres objectifs? Et alors, c'est pas d'aujourd'hui, ça, le sentiment anti-français. À chaque fois, comme ça, qu'on a des opérations, ça débouche sur un sentiment anti-français. Peut-être pas de tous les Africains, mais de beaucoup. Donc, là encore, il y a des graines de l'échec.
Oui, absolument. Alors, je pense que cette hubris qui a consisté à dire nous allons y arriver parce que nous avons des capacités...
Puis nous sommes la France, quoi, voilà, avec une grosse armée.
Nous avons des capacités absolument supérieures à celles des armées sahéliennes, a été en réalité un piège, puisque c'est sur cette base-là qu'il y a eu une foi de l'opinion publique sahélienne qui a considéré que si la France n'y arrivait pas, c'est qu'en réalité, elle ne voulait pas y arriver. Alors qu'à mon avis, elle n'en avait absolument pas les moyens d'éradiquer ces fameux groupes terroristes. Mais ce qui a été conclu par les opinions publiques locales, c'est que la France, d'une part, poursuivait un dessein caché.
Néocolonial.
Néocolonial, mais plus que ça, qui visait en effet, d'un point de vue néocolonial, à exploiter les ressources locales, mais plus grave, de déstabilisation de la zone en collaboration, en complicité avec les groupes combattus que la France a été accusée d'armer. Mais à mon avis, là où l'on se trompe, parce que en effet, c'est avant tout, et c'est normal puisque nous sommes en France, la clameur qui s'élève pour dénoncer la présence française que l'on voit avant tout. Mais je pense qu'il y a un rejet beaucoup plus large de tous les partenaires internationaux. D'abord, les partenaires que je qualifierais de transatlantiques, pour ne pas parler de partenaires occidentaux, parce que si l'on regarde, il y a de nouveaux entrants. Je pense à la Hongrie, par exemple, de plus en plus présente dans un pays comme le Tchad. Il n'y a pas de rejet de ce point de vue-là. En revanche,
il n'y a pas la même histoire non plus.
Exactement. Mais les États-Unis n'ont pas la même histoire coloniale non plus, mais sont très rejetés aujourd'hui. Ils viennent d'être appelés à quitter le Niger militairement. Mais il y a aussi un rejet très profond des organisations multilatérale africaine, il ne faut pas l'oublier. L'Union africaine et la fameuse CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui était censée intervenir justement pour mettre un terme au coup d'État au Niger contre le président Bazoum, est au nid également des populations.
Est-ce que ce que les Africains reprochent, c'est le fait que quand il y a une opération militaire, elle n'est pas adossée à une opération sociale, économique ? Mais que militaire, pour une présence sur le terrain géopolitique. Parce qu'on sait que l'Afrique est comme un gâteau sur lequel les Russes se jettent, les Français parce qu'ils ont déjà beaucoup de parts. Est-ce qu'il y a ce sentiment-là? Vous intervenez militairement, mais au niveau de la coopération, c'est toujours pas ça, quoi.
Non, je ne le pense pas. Je pense que les acteurs civils sont extrêmement rejetés aussi, notamment les acteurs en matière de développement et de manière encore plus préoccupante. Un certain nombre d'acteurs humanitaires le sont aussi de plus en plus. Il faut prendre conscience de cette réalité. Ce qui est en train de se produire, à mon avis, ce n'est pas ce nouveau Scramble of Africa, ce partage de l'Afrique entre grandes puissances. C'est au contraire une volonté des États africains très soutenue par leurs opinions publiques, qu'ils soient autoritaires ou qu'ils soient démocratiques. Le cas du Sénégal est très intéressant de ce point de vue-là. Cette aspiration à affirmer la souveraineté nationale, la fierté nationale, le patriotisme et à faire des choix opportunistes, très réalistes en termes de partenariats internationaux. C'est-à-dire que l'on est prêt à travailler